y a une chose qui est certaine. Si le roi décide d'abdiquer, ce sera en tout cas pas le 21 juillet 2013.
Je vous fais part de mon intention d'abdiquer ce 21 juillet 2013.
C'est l'histoire d'un mec qui décide de partir à la retraite.
Sauf que ce mec ne peut pas partir à la retraite, il a un métier un peu spécial.
Cet homme est roi, c'est Albert II, roi des Belges.
En 2012, fatigué, il décide d'abdiquer, mais tout ne va pas se passer comme prévu.
Retour sur un tournant pour la monarchie, retour sur un moment clé pour la Belgique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans L'Histoire continue.
Cela fait 8 ans que le roi Philippe est devenu le roi des Belges. Et si aujourd'hui, sa capacité à régner n'est plus trop contestée, il en allait autrement au début des années 2010. On l'a peut-être un peu oublié, mais Philippe est devenu roi dans des circonstances très particulières. L'abdication de son père, le roi Albert II.
Parce qu'à l'époque, il y a 8 ans, l'abdication était quasiment, on l'oublie un peu, un mot tabou. Comme si le roi, pour être un bon roi, devait mourir sur son trône, comme le roi Baudouin. Mais le mot abdication, à l'époque, est tabou aussi pour d'autres raisons, plus politiques. Car le roi jouit encore d'un certain pouvoir en Belgique lors de la formation des gouvernements. Et on sort, à ce moment-là, de la plus longue crise politique en Belgique, où le roi Albert a joué un rôle important. Or, beaucoup de politiques n'ont pas vraiment confiance en Philippe et ne veulent donc pas entendre parler de l'abdication d'Albert II.
Oui, et pourtant, le roi Albert approche alors de ses 80 ans et il en a marre, pour le dire platement. Il a déjà eu quelques soucis de santé et veut profiter des années qui lui restent avec son épouse Paola.
Et donc, pour vaincre les résistances politiques et culturelles à l'abdication, il va échafauder un plan pour abdiquer le 21 juillet 2013. Il va négocier tout ça avec le Premier ministre de l'époque, Elio Di Rupo. Et pour que le plan fonctionne, il faut qu'il reste secret. C'était sans compter sur une journaliste du Soir qui allait tout révéler au grand public plus d'un an auparavant.
Et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour Martine Dubuisson.
Bonjour.
Vous êtes chef adjointe du service politique au journal Le Soir. On va donc en revenir en détail sur votre scoop dans le récit qui va suivre. On va donc pas trop en dire maintenant, mais avec le recul d'abord, peut-être un premier regard sur cette journée du 21 juillet 2013. C'était vraiment une date clé. Bon, pour la monarchie, on s'en doute, mais même peut-être pour la Belgique.
Mais pour notre pays, et singulièrement pour la monarchie, c'est vrai que c'est un moment clé, parce que, sauf accident de l'histoire et grosse crise, comme on l'a vu avec Léopold III qui a dû abdiquer, en Belgique, la tradition n'est pas du tout celle-là. Effectivement, le roi meurt traditionnellement sur le trône. Ce n'est pas le cas de pays voisins. Par exemple, au Luxembourg, ben voilà, on transmet la couronne, si je peux dire, de père en fils, en tout cas pour le moment. Et chez nous, pas. Il fallait soi-disant que le roi meurt sur le trône. Et donc quand Albert veut se retirer, et ça ne se passe effectivement pas tout à fait comme il sans doute l'avait espéré au départ.
Alors pour bien comprendre, on se replonge en 2013. C'est l'après-midi et nous sommes dans un bureau du Palais Royal.
Le 3 juillet, au milieu de l'après-midi, le roi Albert II entre dans un bureau du palais. Des caméras de télévision ont été convoquées par ses services. La pièce est simple, en tout cas pour un palais. Un grand bureau en bois noble, un portrait de Léopold Ier, une petite bibliothèque où, parmi les livres qu'on ne lit sans doute jamais, des photos de famille. La reine Paola est là également, elle s'inquiète des petits détails. Elle resserre la cravate du roi, le rassure. Albert II relit un peu ses fiches et décide de rester debout. Chose inhabituelle, et il prend la parole. À 18h, la Brabançonne retentit dans les foyers du pays.
C'est avec émotion que je m'adresse à chacune et chacun d'entre vous aujourd'hui. Je suis entré dans ma 80e année. Un âge encore...
Ces paroles, Albert II les a répétées toute la journée. Il y réfléchit, en fait, depuis le mois d'avril, où il a informé le Premier ministre, Elio Di Rupo, de son intention d'abdiquer. Il y pense même depuis plusieurs années déjà et en parle à quelques rares personnes dans son entourage.
Je constate que mon âge et ma santé ne me permettent plus d'exercer ma fonction comme je le voudrais. Après 20 ans de règne, j'estime donc que le moment est venu de passer le flambeau à la génération suivante. Je constate que le prince Philippe est bien préparé pour me succéder. Il jouit avec la princesse Mathilde de toute ma confiance.
C'est là que commence cette histoire. Un an et quatre mois avant ce 3 juillet 2013, le 1er mars 2012 donc, une des rares personnes à qui le roi a parlé de ses intentions parle à Martine Dubuisson, une journaliste du Soir. Elle sort le scoop de sa vie, le titre claque en une du grand quotidien bruxellois, 21 juillet 2013, Albert II. Abdique.
Info royale à présent. Albert II pourrait-il abdiquer en juillet 2013? C'est ce que le quotidien Le Soir affirme ce matin. Pas de confirmation officielle, le journal.
Le journal affirme qu'Albert II songe à abdiquer et qu'il échafaude donc un scénario. En 2013, cela fera 20 ans qu'il régnera. Il aura aussi 80 ans, ce qui fera de lui le roi belge régnant le plus âgé. Le moment semble donc opportun. Voilà pour le scénario, il est peut-être plausible, mais est-il crédible? À l'époque, pas grand monde ne le pense. Le palais dément dans toutes les langues, et les politiques aussi. Martine Dubuisson est bien seule à défendre son scoop sur le plateau du débat du dimanche midi à la RTBF. Par exemple, elle doit faire face au sarcasme.
J'ai aussi dit dans Le Soir que c'est un scénario qu'on étudie, qu'il reste un an et demi avant qu'il puisse éventuellement donc se confirmer et que c'est clair qu'il peut y avoir des grains de sable parce que je n'ai évidemment pas, parce que je m'attends à ce qu'on me le dise, une boule de cristal pour dire que rien n'empêchera le scénario.
Face à la journaliste, les politiques se montrent souvent très durs. Philippe Moreau pour le PS, par exemple.
Je pense que nous sommes dans une pièce de théâtre où il y a... des choses plausibles. Ben, notre disparition à tous n'est pas plausible, elle est certaine, mais on ne va pas titrer tous les jours que nous sommes morts ou qu'on va mourir à telle date. Donc plausible, oui, pourquoi pas. Alors, mais puis-je vous dire d'une toute petite voix que celui qui en décidera, c'est le souverain.
Hein. Exactement.
C'est pas vous, c'est pas Madame Dubuisson. On dit les politiques, les diplomates. Mais il faudrait peut-être demander l'avis du souverain qui, peut-être un jour, moi je ne crois pas que ce soit indécent d'y penser, mais je ne pense pas non plus que ce soit à l'ordre du jour.
Ou Armand de Decker, pour le MR que l'on dit pourtant proche du palais.
Non, ce que je ne comprends pas, c'est, je dirais scoop pour scoop à Madame Dubuisson. Il y a une chose qui est certaine. Si le roi décide d'abdiquer, ce qui n'est pas du tout inscrit dans les astres, ce sera en tout cas pas le 21 juillet 2013.
Heureusement, parfois les paroles s'envolent et les écrits restent. L'article du Soir est-il crédible? À l'époque, la Belgique semble plutôt ne pas y croire, ou en tout cas, peut-être ne pas le vouloir. Au palais, Albert II est échaudé. Il cherche à savoir qui a parlé au journal Le Soir et se montre plus prudent. Il n'évoque plus beaucoup ce scénario. Le dossier Abdication 21 juillet 2013 se retrouve donc dans un tiroir d'un bureau en ronce de noyer à La Queune. Pour quelques mois cependant, car le 28 janvier 2013...
La reine Béatrix des Pays-Bas, qui fêtera dans 3 jours ses 75 ans, a annoncé il y a moins d'une demi-heure son abdication. Elle cède le flambeau à Willem-Alexander après 33 ans de règne.
La reine Béatrix est 4 ans plus jeune que le roi Albert. Dans un discours surprise, elle annonce renoncer au trône des Pays-Bas pour installer une nouvelle génération. Assise derrière un bureau de couleur beige où trône un énorme bouquet de fleurs, tout semble organisé pour donner une image d'apaisement.
Zoals u allen weet, Comme vous le savez, dans quelques jours, je fêterai mon 75e anniversaire. Je suis heureuse de pouvoir le fêter en bonne santé. À la fin de cette année, nous commémorerons les 200 ans de la création de notre royaume, qui fut le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de notre pays. La convergence de ces deux événements exceptionnels est pour moi l'occasion de me retirer. Je ne me retire pas parce que la tâche est devenue trop lourde, mais parce que je suis convaincue que la responsabilité de notre pays doit passer dans les mains d'une nouvelle génération.
L'abdication de la reine Béatrix donne lieu à une fête populaire aux Pays-Bas et a plutôt contribué à renforcer, là-bas, l'image de la monarchie. Chez nous, la question se pose donc à nouveau dans les médias et à nouveau aussi dans la tête d'Albert II qui ressort le dossier « Abdication ». Du tiroir. L'exemple hollandais va jouer un rôle important pour aider à convaincre son entourage et le monde politique. Car oui, il faut le convaincre. La Belgique sort tout juste de la plus longue crise politique de son histoire et Albert II a été institué par beaucoup comme une sorte de sauveur du pays. Mais pour ça, il a payé de sa personne.
Comme un très grand nombre de Belges, je suis affligé par la plus longue durée de mémoire d'homme de formation d'un gouvernement.
Ce discours du 21 juillet 2011 montre bien comment Albert II s'est engagé dans cette crise politique et il en ressort usé. Il souhaite maintenant passer la main à son fils. Mais côté politique, certains craignent que Philippe ne soit pas prêt, pas assez fort pour faire face à une nouvelle crise politique qui s'éclaire dans beaucoup d'esprits. Ne tardera pas à éclater. Le sénateur Philippe Moureau, franc-tireur du PS, n'hésite pas d'ailleurs à le dire tout haut.
Quand on parle avec l'ensemble du monde politique, à peu près tous ont une petite crainte. On se demande si dans cette période où un souverain ici en Belgique à la fois joue un rôle tellement important sur le plan du symbole, du ciment du pays, mais en revanche doit être tellement prudent sur le plan politique, c'est pas facile.
C'est difficile et ça Albert II le sait. Il va donc devoir convaincre et en premier lieu, il doit convaincre le premier ministre de l'époque, Élodie Roupon. Le roi attend le 15 avril 2013. C'est un lundi et comme chaque lundi, Élodie Roupon arrive à l'audience du palais. Là, Albert lui confie son idée d'abdiquer le 21 juillet. Le roi en a parlé à son fils, Philippe, la veille et il demande donc à Élodie Roupon son aval. Mais le Premier ministre botte en touche. Élodie Roupon ne veut pas détourner l'agenda de son gouvernement avec cette affaire. Et puis, il craint que 3 mois entre l'annonce et l'abdication ne donnent des occasions aux nationalistes d'affaiblir la maison royale et peut-être même le pays. Le dossier abdication est donc une nouvelle fois rangé dans un tiroir. Philippe est mis au courant que tout est gelé. Il ne sait pas qu'en coulisses, Élodie Roupon et la maison royale discutent et échafaudent un plan.
Martine Dubuisson, on fait une pause dans ce récit. On est donc en avril 2013, ça fait un an que vous avez sorti votre fameux scoop, ce scénario qui circulait alors et qui va s'avérer juste. Ce qui frappe d'abord, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand monde qui vous croit, qui vous prend au sérieux sur les plateaux de télévision. Avec le recul, c'est quand même étonnant.
Oui, c'est incroyable. 8 ans, c'est pas un siècle, comme on voit, comme le contexte, les choses ont changé. C'est vrai qu'à l'époque, c'était le tabou absolu et c'était comme si c'était moi qui avais inventé ce scénario. Ça me frappe encore. À l'époque, ça me frappait et ça me frappe dans ce qu'on vient d'entendre. Il y a évidemment déjà beaucoup de choses là-dedans. Et le jour de l'abdication, le 21 juillet, il y a même une politique qui m'a dit « Ben voilà, vous l'avez, votre abdication. » Mais ce n'était pas mon abdication. Et de fait, ce n'était pas les politiques, ce n'était pas les diplomates, ce n'était pas moi, ce n'était pas le soir qui avions décidé qu'Albert allait ou devait abdiquer. Ce qui s'est passé, rappelez-vous, à l'époque, ça fait deux, trois ans, que, voire un petit peu plus, qu'une idée d'abdication d'Albert circule. On en parle pour ses 75 ans, pour les 5 ans de Philippe, pour certains événements. Et chaque fois, moi en tout cas, au niveau de mes informations, on me dit non, c'est pas dans l'air du temps, non, on sait que ça circule, mais non. Et puis ben, un jour, en début 2012, une de mes meilleures sources me dit ben oui, voilà, apparemment maintenant c'est effectivement dans les cartons. Et à ce moment-là, ben, ça me tombe un peu dessus, hein. On est journaliste, on apprend ça un jour. Comme j'ai déjà dit, on ne se lève pas un matin en tant que journaliste en disant qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui. Oh ben je vais écrire que le roi va abdiquer. C'est pas comme ça que ça se passe. On a une information et cette information, ben voilà, je la reçois, je suis un peu frappée moi-même et je mets un mois à la vérifier. Alors c'était pas évident parce que très peu de gens étaient
au courant. On imagine qu'il y avait très peu de sources.
Voilà, il y avait très peu de sources et donc c'est ça que ça m'a pris un temps. Je ne voulais pas me précipiter et de fait, il y avait très 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 peu de politiques au courant. Et forcément, puisqu'ils n'étaient pas au courant, comment est-ce que moi je pouvais l'être ? Donc voilà, enfin, ça s'est passé de façon...
Et vous êtes parvenu à recouper alors à plusieurs sources.
Ça s'est passé de façon un peu plus indirecte que ce qui a été dit dans le reportage. Je ne peux évidemment pas dévoiler ma source initiale. Mais c'est vrai, j'ai dû grappiller, aller vraiment vers des proches du palais, l'un ou l'autre politique que je savais qui était normalement proche, un diplomate ou l'autre, parce que bon, on sait, hein, les diplomates sont beaucoup dans l'entourage royal, beaucoup au palais. Et donc petit à petit, j'ai pu reconstruire. Et à un moment donné, quand c'était suffisamment béton... on l'a sorti. Je ferai juste une petite correction par rapport à ce qui a été dit. Moi, je ne pense pas qu'Albert l'ait jamais mis dans un tiroir. Albert était en fait extrêmement décidé à se retirer. Et donc, il a dû un peu, oui, peut-être geler son projet.
C'est ça que je
voulais
dire en disant, mettant dans un tiroir. Mais il savait où était le tiroir.
Oui, renoncer, il n'a jamais renoncé. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui a surpris les politiques. Il faut se rappeler qu'Albert, pendant tout son règne, n'a jamais été contre l'avis des politiques. Il a signé la loi sur l'euthanasie, il a joué le jeu dans cette très longue crise de politique pour la formation d'un gouvernement en 2010-2011 en accompagnant les politiques. Et donc, je pense que les politiques qui savaient, parce qu'Albert ne s'en cachait pas, il disait « je suis fatigué, ça devient lourd ». On sait que cette crise justement politique l'avait beaucoup affecté physiquement et nerveusement aussi. Donc on savait qu'il était fatigué, mais il ne voulait pas l'entendre, les politiques, et il n'en voulait pas, comme vous l'avez dit. Ouais. Et donc ils se sont dit « pourquoi est-ce qu'Albert s'obstinerait ?» puisque c'est pas qu'il a toujours fait ce qu'on voulait, mais il nous a toujours accompagnés sans nous contrer. Donc je pense qu'ils n'ont pas cru. Exactement. Je pense qu'ils n'y ont pas cru, qu'ils se sont dit « oui, bon, il est fatigué, d'accord, il a son âge, mais ça va aller ». Et ils ont sous-estimé la volonté et le côté décidé d'Albert de s'en aller.
Et vous, par rapport aux réactions qui sont... alors on disait sarcasme, c'est même presque un peu violent hein, sur un plateau de télévision de se faire dire mais enfin, vous avez continué à y croire.
Oui, tout à fait. Donc en fait, parce que vous sortez ce débat-là, mais il y en a eu d'autres. Donc j'allais chaque fois, quand il y avait une émission, on m'invitait. Donc j'étais face à un tribunal, parce qu'ils ont... C'est vrai que souvent, on invitait des gens, comme vous disiez, censés être proches du palais, donc savoir.
Souvent des hommes.
Voilà. Qui ne savaient pas et ne voulaient pas non plus. Donc je me retrouvais, j'ai fait comme ça, je sais pas, 5-6 débats en un an et demi certainement, plus en débat télé, plus la radio. Et donc j'avais toujours un tribunal devant moi. Bon, ce débat-là était un des plus violents avec les... Comme vous dites, les sarcasmes, le petit sourire, tout le débat, j'étais un petit peu seule. Heureusement, il y avait un journaliste flamand qui m'a un peu soutenue. Mais sinon, exactement, du Last News. Mais sinon, c'était un tribunal. Donc, c'était extrêmement lourd. Heureusement, moi, j'ai eu la chance de travailler dans un journal qui m'a toujours soutenue, qui croyait en mes informations, qui n'a jamais donc renié ou empêché d'écrire quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai même des confrères qui ont dit que Le Soir avait inventé un scoop, qu'il auto-alimentait régulièrement. Non, c'était là. C'était la volonté du roi de personne d'autre, enfin du couple royal. Paola, évidemment, était d'accord. Et donc, moi, j'avais ces informations-là. Maintenant, dès le début, vous l'avez bien souligné, j'ai parlé d'un scénario. Et oui, des choses pouvaient arriver, notamment la puissance de la NVA aux élections communales de 2012, si ça avait été un raz-de-marée. Ben alors, on aurait peut-être revu le scénario. Mais la volonté d'Albert, elle était là.
On reprend le fil de cette histoire, on replonge en 2013. Le roi et Elio Di Rupo tentent de jouer la surprise, attendre que les gros dossiers politiques soient réglés et annoncer l'abdication quelques jours avant le 21 juillet. Allez vite pour maîtriser le processus.
Le 3 juillet, au matin, un porteur se rend au 16 rue de la Loi, au centre de Bruxelles, avec un courrier. Il ne vient pas de très loin, il vient juste d'en face, du Palais Royal, de l'autre côté du Parc Royal. Il est adressé au Premier ministre Élodie Rousseau et il sait ce qu'il va y trouver. C'est une lettre du roi. Élodie Rousseau convoque dans la foulée un cairn, un conseil des ministres restreint, chose exceptionnelle. Il se tient au Palais Royal, place des Palais. Le roi annonce sa décision avec émotion aux vice-premiers ministres fédéraux. Quelques larmes coulent, les ministres quittent le palais et très vite, tout s'enchaîne. Le service presse du palais appelle les rédacteurs en chef des quatre grandes chaînes nationales pour leur indiquer, mais sans expliquer encore pourquoi, que le roi souhaite diffuser une allocution à 18h. Il ne faudra pas attendre très longtemps pour savoir le fin mot de l'histoire.
Tout d'abord, cette information qui nous est parvenue il y a un peu plus d'une demi-heure, le 3 juillet 2013, sera peut-être une date historique. Sa Majesté, le roi Albert II, vient d'annoncer qu'il s'adressera à la population à 18h sur les quatre principales chaînes de télévision et de radio. Le Premier ministre en fera de même dans la foulée. Alors pourquoi cette communication inopinée ? Officiellement, le palais ne communique pas. Le roi veut-il mettre un terme à certaines rumeurs ? La question est bien entendu sur toutes les lèvres. Albert II va-t-il annoncer qu'il renonce au trône, autrement dit qu'il abdique ? La seule chose qui est certaine, nous dit-on, c'est qu'à 18h, on saura.
Nous retrouvons donc le roi dans son bureau. Après plusieurs années de réflexion, un an et demi après l'article du soir, 3 mois après en avoir parlé à son fils et au Premier ministre, il peut enfin se lancer devant les caméras.
Après 20 ans de règne, j'estime donc que le moment est venu de passer le flambeau à la génération suivante. C'est donc avec sérénité et confiance que je vous fais part de mon intention d'abdiquer ce 21 juillet 2013. Jour de notre fête nationale, en faveur du prince héritier, mon fils Philippe.
Le roi reprend donc plus ou moins les arguments qu'il a tenus devant Élodie Rousseau, mais il décide aussi d'y ajouter une touche plus personnelle, voire plus intime.
La reine Paola et moi n'oublierons jamais tant de liens chaleureux tissés avec toute la population durant ces 20 dernières années. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez témoignée, pour vos gestes de sympathie et de soutien, même empreint parfois de quelques critiques. La fin de mon règne ne signifie pas que nos chemins maintenant se séparent. Bien au contraire.
L'annonce faite, en coulisses, il reste quelques menus détails à régler. Et pas des moindres, il faut organiser la cérémonie, inviter des personnalités du monde entier, prévoir une fête avec la population, organiser des visites d'adieu. Le cabinet du prince Philippe monte au créneau en collaborant, d'ailleurs, assez peu avec le cabinet du roi. Les relations entre les deux sont, disons, plutôt limitées. Autre détail à régler, le montant de la dotation royale pour Albert II. Élodie Rousseau propose au gouvernement de se calquer sur le modèle néerlandais, où Béatrix reçoit depuis son abdication 1,4 million d'euros par an. Le VLD refuse, Albert II aura beaucoup moins qu'espéré.
Après son abdication, le roi Albert II recevra 923 000 euros bruts par an. C'est le montant de sa dotation. Le gouvernement s'est mis d'accord sur cette somme ce matin. Albert II paiera l'impôt des personnes physiques. Il devra aussi s'acquitter de la TVA et des accises.
Ce sera finalement 900 000 euros. Albert II en gardera toujours une amertume envers Élodie Rousseau, qui ne l'aurait pas assez défendu. Mais ceci viendra à peine troubler la grande fête qui s'organise le 21 juillet. Ce jour-là, il fait très beau et la foule est présente. La journée commence par la signature de l'acte d'abdication. À 10h45, Albert II parle pour la dernière fois en tant que roi. L'émotion le submerge à deux reprises. La première fois, quand il lance un dernier message aux politiques.
Mes dernières recommandations à vous tous rassemblés ici sont
travailler sans relâche à la cohésion de la Belgique. Vous serez ainsi davantage encore des artisans de paix. Vous défendrez au mieux le bien-être de tous et notre pays restera une inspiration pour l'Europe qui cherche l'unité dans la diversité.
La deuxième fois, la gorge toujours aussi nouée, il lance un message à la reine Paola, non prévu dans ses notes.
Quant à la reine Paola, qui m'a constamment soutenu dans ma tâche durant ces 20 années, je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss.
Ainsi se termine 20 ans d'un long règne. La première journée du roi Philippe peut maintenant commencer.
Retour sur l'abdication du roi Albert du 21 juillet 2013. Pas mal de questions soulevées à travers ce long récit. On en parle notamment avec Martine Dubuisson, journaliste au Soir. On parlait de votre scoop un an et demi auparavant. Vous, est-ce que avant le 3 juillet 2013, vous savez, vous avez eu de nouveaux éléments quant à cette abdication ?
Oui, fin juin, j'ai eu l'information que ça allait arriver. Et c'était même un peu amusant parce que moi, je partais en vacances 1er juillet, je crois, enfin quelques jours après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ?
Oui, c'est un peu bizarre de prendre vos vacances au moment de vous avez annoncé la
publication. Tout à fait, mais bon, j'allais pas loin, j'allais en France. Et donc, voilà, j'ai dit, oui, mais bon, est-ce que je pars, je reste ? Parce que je ne savais pas quand allait avoir lieu l'annonce, mais je savais que ça allait être imminent. Et ça, on n'a pas voulu me dire. Donc, je suis partie, et 3 jours après, je suis revenue.
Et quand vous avez entendu le 3 juillet, ça devient public à ce moment-là. Vous, comme journaliste, mais aussi comme personne, qu'est-ce que vous ressentez ?
Alors, donc, j'ai ma chef de service à l'époque, Véronique Lamquin. Je vois mon téléphone qui sonne le 3, je savais ce que c'était. Et je dis, ça y est, bon. Et donc, c'est un soulagement quand même aussi, après tous ces mois de critiques. Et voilà, moi, je savais comment j'avais travaillé, je savais que j'avais fait un travail sérieux, mais on essayait de décrédibiliser mon travail. Donc, c'est vrai que c'est un soulagement et le contentement de voir que le travail que j'ai effectué a été payant. Et je tiens d'ailleurs à saluer mon collègue Francis Van Loosten de La Libre, qui n'y croyait pas du tout, mais qui a toujours été extrêmement correct, et qui est le deuxième coup de fil que j'ai reçu ce jour-là, et qui m'a dit « Martine, incroyable, c'est vrai que je n'y croyais pas, bravo ». Et pour la petite anecdote, il avait dit sur un plateau de télévision qu'il n'y croyait pas, mais en toute fraternité, enfin, franchement, c'était un collègue très respectueux, mais il a dit « ben voilà, si c'est vrai, ben, ce sera le scoop, je ne sais plus ce qu'il a dit, de l'année, de la décennie de Martine, et je lui enverrai du champagne ». Et de fait, quelques jours après, j'avais une caisse de champagne de la part de Francis. Oui, 6 bouteilles de la part de Francis.
Voilà. Quoi, la confraternité,
une belle anecdote. Tout à fait.
Existe quand même dans ce métier. Tiens, je vous propose d'écouter le témoignage d'un de vos confrères, enfin qui est devenu chef à l'RTBF, chez Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information ici, qui a été invité, lui, convoqué par le palais lors de l'enregistrement de l'annonce officielle de l'abdication, donc ce fameux 3 juillet. Et je lui ai demandé de nous rappeler le contexte. Et puis, est-ce que c'était une surprise pour lui à l'RTBF ?
Alors, une surprise totale, non. On se disait depuis quelques jours que ça grenouillait, il y avait quelque D'accord. chose. Puis tout d'un coup, c'est le début des vacances, on apprend que le roi va faire une déclaration. On dit, bon, ça y est, cette fois-ci, c'est parti. C'est clair. Donc, on est en édition spéciale, on prend l'antenne, breaking news. Et puis tout d'un coup, je reçois un appel, je décroche, mais j'étais en régie en train de voir comment la spéciale se déroulait. Et c'est le porte-parole du palais qui me dit, voilà, il y a 2-3 personnes qui sont souhaitées pour venir voir comment se fait l'enregistrement de cette allocution qui sera diffusée plus tard. Si vous souhaitez venir, vous êtes le bienvenu.
D'accord. Donc une invitation du palais quand même à venir.
Une invitation du palais à. Alors est-ce qu'ils avaient
besoin
être présent. Est-ce que c'est ils avaient besoin de témoins pour tenter la chose quelque part. Oui, je pense que c'est plutôt cela. Il faut savoir que à ce moment-là, dans la direction que j'avais, il y avait les discours royaux, l'enregistrement des discours royaux. Je vais surveiller que ça se passait bien. Donc c'est sans doute à ce titre-là. Donc j'ai regardé, j'ai vu que tout tournait bien en mission spéciale. Et puis je suis parti au palais et on était là une petite dizaine. Et ce qui était étonnant, c'est que d'un côté, on avait la rédaction qui disait, bon, il l'a dit, il ne l'a pas dit. Et nous étions soumis quand même là, clairement, à un embargo. Mmh. Peut-être que la volonté de nous voir présents sur place...
C'était pour contrôler l'embargo aussi.
C'était sans doute aussi pour contrôler que l'embargo...
Tienne jusqu'à 18h.
Jusqu'à 18h, le moment où le discours avait lieu. Alors, cet enregistrement a lieu. Il n'a pas fallu des dizaines de prises. Et puis après cela, on se dit, bon, vite, on repart chacun. Ah non, on nous propose une coupe de champagne à partager avec le couple.
Comme pour un départ à la retraite.
Alors on a fait
quelques
photos. Tout simplement. Il n'y avait pas de fromage et de petits snacks en plus. Et c'est la reine Paola qui me paraissait le plus soulagée des deux. Elle est même venue un moment nous demander, nous dire, bon, maintenant, vous allez nous laisser tranquilles. L'air de dire, est-ce qu'on va avoir des paparazzi autour de nous? Il faut quand même se rappeler le début de leur couple où les paparazzi étaient très présents dans les années 60 autour d'Albert et Paola, qui avaient une vie qui n'était pas aussi rangée.
Oui, et puis encore même pendant leur règne, avec cette fameuse retraite à un moment donné, je ne sais plus où vous avez été au spa là, ils étaient en peignoir, et puis il y a eu les photos sur leur yacht aussi qui les a dérangés. Hein.
Oui, et puis le coup du yacht et tout ça. Et donc, visiblement, il y avait une envie de dire, maintenant... c'est au point où, avec une autre journaliste, on a dit qui aime bien châtie bien. Donc, l'air de rien, on va continuer, bien sûr, à surveiller, à informer sur ce que vous faites.
Mmh. Alors, sur le reste du processus, le 21 juillet qui intervient, et là, qui résonne quand même comme plutôt avec le recul, du point de vue en tout cas du Palais Royal, si on se met à sa place, comme une réussite. D'abord, il a fait beau, il y a eu beaucoup de Belges dans la rue, et puis les télévisions et la RTBF en particulier étaient là pour couvrir toute la journée. C'était quand même plutôt un coup de maître de réussir cette abdication avec l'intronisation, en même temps, le même jour, du roi Philippe.
Oui, bien sûr. C'était un événement, c'est vrai, relativement joyeux. Donc il n'y avait pas cette charge émotionnelle négative. D'autant plus que, et on se rappelle du premier discours d'Albert quand il monte sur le trône avec ses mains tremblantes et ce côté en disant est-ce qu'il va tenir le coup. Et Philippe, beaucoup plus assertif, alors qu'on s'attendait vraiment à ce que ça soit moins bien. Donc, quelque part, belle réussite, tir de feu d'artifice, éclairage du palais des académies, journée où il faisait très très beau. Il y avait vraiment un sentiment d'une fête, mais c'était pas non plus... c'est la Belgique, hein. Oui. C'est-à-dire, derrière la tribune... du Palais Royal, il y a saucisse choucroute, quoi. Hein. C'est quand même ça, la Belgique aussi. Oui. Et c'est ce côté-là assez intéressant de ce pays.
Mais, et avec, quand même,
en
dans
gros,
les
ors de la République que l'on peut ressentir en France, côté solennel, en Belgique.
Oui, ou au Royaume-Uni avec la monarchie en
Belgique. Oui, c'est ça. En Belgique, il y a quand même toujours, c'est ce que je dis, il y a toujours un sachet de frites derrière le trône.
Et ce qu'a incarné d'ailleurs aussi Albert dans ses discours, avec ce gros kiss, hein, c'est dernière phrase en fait de roi qu'il adresse à son épouse, et puis c'est cette formulation un peu populaire, quoi, voilà, gros kiss. C'est ce qu'on va retenir aussi, c'est un roi qui a assumé son côté émotif déjà par rapport à Baudouin par exemple, et puis peut-être aussi parfois plus simple dans sa manière de s'exprimer.
Oui, il a donné cette
image.
Plus accessible. Je pense qu'il a cultivé ça aussi, il le cultivait depuis très longtemps, hein, en tant que prince dans les déplacements à l'étranger, quand il accompagnait des missions souvent du commerce extérieur. Il y avait toujours ces quelques images où on le voyait partager une pils, une simple bière avec les uns et les autres. Albert à moto aussi, hein, donc c'est un roi qui voulait être en bas du piédestal. Là, il en est descendu d'un seul coup rapidement, enfin rapidement, en 15 mois.
Oui, par sa propre décision.
Par sa propre décision. Et je pense que franchement, il a été contre la volonté politique. Et c'est quelque part une forme de modernité supplémentaire. S'accrocher à son trône quand on n'a plus du tout envie de l'exercer, quand on a envie de faire autre chose, quand on a envie de respirer. Je pense qu'il... Moi, j'ai parfois eu le sentiment qu'ils avaient envie de retrouver à la fin de leur vie ce qu'ils avaient connu au début, ces années un peu folles sur la Riviera française, la Côte d'Azur, et que c'est bien ça qui s'est passé en plus. Hein, ils sont plus du côté de Menton que du côté de Laeken.
Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'information ici à la RTBF. Jean-Pierre Jacquemin, et ses bons mots, ils sont plus du côté de Menton que du côté de Laeken. Est-ce qu'il y avait aussi ça, Martine Dubuisson, de la part du roi, l'envie de profiter simplement de la belle vie qui s'ouvrait encore devant lui, de ses dernières années de vie?
Oui, je pense qu'il était quand même très fatigué par sa charge et que dès lors, il avait envie à la fois d'avoir moins de tracas, parce que c'est vrai que sur les dernières années de son règne, il en a eu quelques-uns, et de profiter sans doute d'années où sa santé lui permettait encore de voyager, d'aller dans le sud de la France, de faire différentes choses avec Paola. Et donc oui, je pense qu'il avait vraiment envie de s'en aller. Et c'est amusant ce qui est raconté par rapport à Paola le jour
du discours. Oui, avec la coupe de champagne.
Et ce qu'elle dit, vous allez nous laisser tranquille, parce que d'après mes informations, en tout cas, dans un premier temps, quand Albert, dans l'intimité du palais, a commencé à évoquer son abdication, on me dit que Paola n'était pas du tout pour, parce qu'elle se plaisait dans son rôle de reine, etc., et qu'il a fallu un certain temps. Mais après, effectivement, elle était tout aussi décidée que lui, donc peut-être qu'il l'aurait même fait encore un petit peu plus tôt si elle n'avait pas freiné à une certaine époque. Mais après, ils étaient tous les deux décidés à sortir de charge et à profiter un peu de la vie dans des circonstances plus paisibles.
Peut-être deux, trois points à éclaircir d'ici la fin de l'émission. Le rôle de Philippe dans cette abdication, parce que bon, finalement, c'est lui qui a été intronisé, mais il a été tenu largement en dehors du processus de décision. Ça, Martine Dubuisson, vous l'avez montré dans vos nombreux articles sur le sujet.
Totalement, c'est un petit peu triste d'ailleurs. Ouais. Donc il est informé la veille de l'annonce à Desroupeaux, comme vous l'avez expliqué, 3 mois donc avant que ça se passe, et puis plus rien. Par exemple, il est parti en mission économique
en juin,
moi j'ai accompagné. Il part et à ce moment-là, il ne sait rien. Et c'est même pendant ce voyage-là qu'on réforme les dotations à la famille royale. Il n'était pas au courant.
Ah oui.
C'est quand il rentre, donc à peu près mi-juin, qu'il commence à être mis dans la confidence, mais il reste un mois. Et que là, c'est un peu branle-bas de combat. Et ce qui m'a frappé...
C'est un peu glaçant comme relation, quoi.
Ouais,
comment ça se fait?
Bon, on sait qu'ils ne s'entendaient pas trop. Ben, Albert estimait, tant qu'il était roi, ben, c'était lui. Par exemple, on pourrait se dire que les derniers mois, puisqu'il avait cette idée-là, ben, il aurait pu, lors de certains contacts politiques, associer Philippe, même discrètement, même sans que ça se sache. Il ne l'a pas fait. Donc, la succession, c'est vrai qu'il a de beaux mots le jour où il annonce son abdication et le jour de l'abdication, il a de beaux mots pour son fils. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'il l'ait pris par la main, préparé vraiment, même durant ce dernier mois. Et vous l'avez expliqué aussi, le dernier mois, donc entre vraiment mi-juin, où on sait que maintenant ça y est, et que ce sera pour le 21 juillet, et il faut tout préparer, il y a deux cabinets séparés, l'un prépare l'abdication, l'autre prépare le couronnement.
Oui.
Et ils ont des contacts que quand les deux cercles se rencontrent, quoi. Les deux situations doivent se coordonner, sinon c'est chacun pour soi, et même, enfin chacun pour soi, chacun de son côté, disons. Et même quand Philippe, l'entourage de Philippe prépare tout, on prévoit déjà des choses, on organise un petit cabinet pour ne pas se faire imposer trop de choses de l'extérieur non plus. Oui, donc c'est un petit peu triste, même si le 21 juillet a été une très belle journée.
Oui, mais c'était quand même un peu le côté, pas sombre, je ne dirais pas comme ça, mais un peu difficile de cette abdication. Il y en a peut-être un deuxième, c'est la dotation quand même, parce que ça a brisé la relation entre Elio Di Rupo et le roi, et ça on le sait parce qu'Elio Di Rupo a parlé, dans de nombreuses interviews d'ailleurs, où il a assumé qu'il ne s'entendait plus avec le roi depuis le fait qu'il n'ait pas obtenu autant que prévu. Et ça a resté comme une blessure pour le roi Albert II, comme une non-reconnaissance de son travail.
Oui, Elio Di Rupo, si je peux le dire, m'avait aussi expliqué les choses. Donc en fait, vous avez bien expliqué, quand on commence à discuter du montant, il y a des partis dans le gouvernement qui ne veulent pas donner autant qu'à Béatrix, et le montant descend, et Di Rupo accepte les 923 000 euros, parce qu'il se dit, si je ne bloque pas ça, on va encore descendre en dessous. Mais Albert, manifestement, n'y a pas cru, a cru que c'était Di Rupo, et lui, vraiment, jure que non. Et donc, ils avaient une très belle relation, Albert et Di Rupo, et elle s'est cassée après, dans les mois, même les années qui ont suivi, ils ne se sont plus vus. Et oui, je pense que pour Di Rupo, ça reste une déception, peut-être une petite blessure, et pour le roi, une grosse blessure, parce qu'il a toujours estimé, depuis son abdication, ne pas avoir été traité comme il l'aurait dû, étant donné les services qu'il avait rendus au pays.
C'est pas que vénal, j'ai envie de dire, comme ça, de sa part.
C'est l'idée,
c'est
on me traite mal.
C'est l'idée de reconnaissance.
Oui, c'est l'idée, on me traite mal. Et il avait un exemple juste à côté où il estimait que c'était mieux traité. Moi, je dirais quand même que 923 000 euros, c'est pas si mal comme pension.
Oui, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais évidemment, le train de vie d'un roi, après ce qu'il a connu, c'était quand même une diminution.
C'est une diminution, mais le belvédère, ben, il l'a. Il y a pas de location. Enfin, il y a tous des frais qui ne sont pas à sa charge non plus. Donc, voilà, je pense que c'était honorable.
Il y avait une logique.
On est la petite Belgique aussi, hein, voilà.
Pour terminer, Martine Dubuisson, vous êtes d'accord avec cette idée que finalement, cette abdication qui était redoutée parce qu'on la voyait comme une faiblesse, elle s'est convertie finalement en force pour la monarchie ?
Mais je pense que pour le pays, accepter qu'un roi qui va sur ses 80 ans puisse abdiquer quand il en a envie lui-même, sa santé commence un petit peu à être défaillante, je pense que c'est bien pour tout le monde. Et donc oui, on avait très peur de cette abdication, notamment dans le monde politique. Ben voilà, Philippe fait un règne sans grosse faute, me semble-t-il, jusqu'à présent. Il n'a pas fait les bourdes qu'on craignait, ou que certains craignaient qu'il fasse. Donc je pense que ça a aidé aussi. Son discours du trône, d'ailleurs, était très fort. Directement, il a clairement dit qu'il acceptait le cadre institutionnel dans lequel il allait jouer et la situation de la Belgique, c'est-à-dire fédérale avec des régions fortes. Et il a dit qu'il allait travailler avec les régions. On voit qu'il le fait. Donc dès le départ, il veut rassurer. Il rassure la Flandre aussi. C'était là qu'il y avait les plus grosses craintes. Et donc, il y a deux choses. Il y a à la fois, je pense que c'est bon pour le pays et la monarchie qu'on puisse se dire qu'à 80 ans, oui, un monarque peut se retirer. Et deux, Philippe a aidé aussi par l'attitude qu'il a adoptée et son style royal depuis qu'il est sur le trône.
Oui, il y a un peu jurisprudence quand même maintenant,
oui, je pense.
Albert. Et ça veut dire qu'il y a eu aussi une professionnalisation, peut-être une modernisation de la fonction royale à travers toute cette affaire.
Je pense, et quand on voit comment Philippe prépare sa fille, je pense que Philippe n'a aucune intention de se retirer rapidement et qu'il a attendu longtemps pour pouvoir régner. Et je pense qu'il aime ce qu'il fait, mais on voit quand même que lui, contrairement à ce qu'il a vécu lui-même, prépare sa fille. Et donc, moi, j'ai encore une fois pas de boule de cristal, comme je le disais à l'époque, mais ça ne m'étonnerait pas, effectivement, maintenant qu'on soit rentré dans un modèle où, à un certain âge, ou pour raison de santé ou autre, eh bien, un roi sortir. Et en l'occurrence, si Philippe le fait, il aura préparé sa fille convenablement.
Il faudra peut-être lire le soir en 2035, nous annoncer l'abdication
si
en 2036. On verra. Merci Martine Dubuisson d'avoir été notre
Merci
invité. Je rappelle que vous êtes journaliste au soir et chef adjoint du service politique au soir.
Merci à vous.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Soluma, une émission réalisée par Bawandine et Jonathan Remy.